commence à faire long. Depuis là, sa femme. Depuis le temps que je t'attends. J'ai la patience et j'ai confiance en toi. Je sais qu'un beau jour, notre amour t'éveillera. Il sera sûr et la console. Car elle est le poids dans ses bras.
D'entendre Catherine Ringer qui nous chantait leur amour.
Merci Maurice, Catherine Ringer pour qui j'ai une immense admiration.
Mm-hmm.
Alors Yvan, la suite du texte de Geneviève Lefebvre.
En fait, la suite c'est quasiment le début. Hein?
Ah oui, ben c'est le début de
du grand défi Pierre Lavoie. On vient de partir de Saguenay. Le début c'est comme un prologue si mm-hmm. on veut. Tout le monde qui font le défi partent. Tout le monde ensemble. Puis c'est là qu'elle est bien excitée.
Et on se rappelle qu'on est en 2016.
En 2016, il y a ouais. 2 ans, oui, effectivement.
Ouais.
Mais ça aurait pu être, c'est comme 2 ans, oui. presque jour pour jour. Puis là, ça commence pour ouais. la première étape. Hugo et Jean partent rouler la première étape. 125 kilomètres de Saguenay à Baie-Saint-Paul. J'ai jamais fait celle-là, là, mais ça doit pas être planche tout le long. Hein? Je sais qu'ils se taperont ensuite la seconde. Ça veut dire qu'ils font 125 plus une autre étape d'à peu près une centaine, sûrement.
Oui, pour eux aussi, j'ai une immense admiration.
Et qu'ils vont devoir grimper la fameuse côte des AA, celle qui tue les cyclistes. Les paris sont pris sur qui restera en selle. Aucun des miens ne mettra pied à terre. Peinard, pour le moment, Martin, Alex et moi prenons la route en VR. Au volant, Alexandre, notre ex-joueur du Rouge et Or, subit les assauts de notre concours de iPod. Frankie Valli n'a jamais aussi bien sonné que dans les montagnes de Charlevoix. You're just too good to be true. Moment parfait. De Baie-Saint-Paul à la côte de Beaupré, la côte est si raide et si longue en descente que Jean fait exploser ses roues. Mais ils n'ont pas explosé pour vrai, là. C'est quand tu freines souvent, des fois, si la côte est tellement longue, ça se met à chauffer. Okay. C'est ça, faire exploser ses roues.
Ah, merci.
Ensuite, c'est mon tour, jusqu'à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. On roule, vite. Toute mon attention est monopolisée par les roues de ceux qui m'entourent. Pédale. Garde ta distance. Juste assez. Pédale. Je suis tellement concentré sur la route, terrorisé à l'idée qu'une seconde d'inattention fasse chuter tout le monde, que je ne vois rien d'autre que la roue de celui qui me précède. Du camion qui ouvre la route, j'entends la voix de la chic José Lavigueur qui nous répète « Le paysage est magnifique. Surtout, ne le regardez pas. » Focus, focus, focus. On se relaie les uns les autres, de plus en plus fatigués, de plus en plus sales, le cul en compote. On mange bien et tout le temps, des gouffres sans fond. On ne dort pas, ou alors très mal, 20 minutes, 2 heures, recroquevillé sur un banc, quand ce n'est pas carrément par terre. Partout, les gens sont magnifiques, généreux, encourageants. Le moral tient bon, et aucun de nous ne perd ni son humour ni sa vaillance. Alex, cette âme bienveillante, est partout, gonflant un pneu, tendant une bouteille d'eau remplie, toujours au bon moment, toujours souriant, réconfortant. Si Hugo est un formidable capitaine, Alexandre est la cohésion de notre équipe. Quelque part dans le coin de Louisville, le convoi s'arrête pour manger dans une école. Je n'en peux plus de puer. Je me faufile dans le vestiaire de l'aréna sans me rendre compte que je suis du côté des gars. Une dizaine d'autres filles ont eu la même idée et nous voilà toutes flambettes à savourer la douche délicieuse, nous foutant éperdument qu'on puisse nous voir dans notre plus simple appareil. Dans un 100 km de nuit, je sens une main chaude qui me pousse dans le dos alors que la fatigue me rattrape. Ça, c'est souvent pour se faire aider. Des fois, il y a des gens qui viennent, puis ça marche vraiment.
Ouais.
Je reprends vie. À l'arrivée, presque à l'aube, alors que je suis transi de froid et d'humidité, je vois Martin et Alexandre à travers la brume. Ils m'attendent avec une couverture et un chocolat chaud, solidaires, alors qu'ils auraient pu grappiller quelques minutes de précieux sommeil dans le VR au chaud. Je les aurais épousés tous les deux sur le champ. Et puis, un coup de pédale à la fois, à travers les villages et les champs du Québec, on arrive à Montréal, le cœur gros parce que c'est déjà fini. De Verdun au Stade olympique, je le jure, nous avons tous ralenti. Pas de fatigue, juste pour faire durer le plaisir de rouler ensemble, roue contre roue. Bien sûr, il y a l'émotion de l'arrivée, grandiose, au stade. Bien sûr, il y a tous ces enfants qui bénéficieront des retombées économiques du grand défi avec des sorties sportives, de l'équipement, des installations. Mais ce que je retiens de ce grand défi avec les gars, avec mes gars, c'est l'attention que nous avons portée les uns aux autres tout au long d'une aventure exigeante mais ô combien gratifiante. Au fil de la route, on était devenus les mousquetaires d'une même équipe, soudés. Et je me dis que s'il y a une chose dont vont bénéficier ces enfants des écoles défavorisées pour qui on a roulé, c'est bien ça. Ce sentiment incroyable de partager l'effort avec d'autres pour qu'eux aussi fassent partie d'une équipe.
Vous en rappelez.
Alors, c'était roulons roue contre roue, de Geneviève Lefebvre dans le magazine Espace de mai 2018, son histoire du grand défi Pierre Lavoie.
Merci. Alors, il était une fois une histoire qui se poursuit en première année. Alors, c'est un texte qui a été écrit par Nathalie Couzon et qui on peut trouver sur le site Réseau d'information pour la réussite éducative, le RIRE, R-I-R-E, le 8 mai dernier. Un projet de collaboration école-famille pour soutenir les enfants dans leurs premiers apprentissages en lecture et en écriture, c'est une histoire inspirante. Le texte relate une expérience vécue par mesdames Annie Charron, professeure-chercheuse de l'UQAM, et Brigitte Gagnon, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, c'est dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu, et doctorante en éducation à l'Université de Sherbrooke. Menée en contexte d'éducation préscolaire à l'école primaire Saint-Vincent, le projet de recherche action intitulé « Il était une fois un livre pour toi et moi » avait mobilisé notamment plusieurs dizaines de parents qui s'étaient engagés auprès de leurs enfants de maternelle à leur lire des histoires quotidiennement. Au terme de ce projet, lors d'une discussion en groupe, plusieurs parents avaient manifesté l'intérêt de s'outiller pour mieux accompagner leur enfant lorsque celui-ci devrait faire son entrée formelle dans l'écrit pour la réalisation des devoirs et leçons. Mm-hmm. À l'écoute des besoins des parents, les trois enseignantes de première année de l'école Saint-Vincent, soit Mme Verrier, Roy et Desautels, avaient alors décidé de donner une suite à ce projet réalisé en collaboration avec les familles. Ce premier projet de recherche-action allait donc mener à un second projet intitulé « Il était une fois, une histoire qui se poursuit », de là le titre de l'article. Mmh. Aidée de la conseillère pédagogique en accompagnement de la commission scolaire et de la chercheuse spécialisée en didactique du français, impliquée depuis le début dans le premier projet, les trois enseignantes ont donc développé un second projet qui serait lié cette fois plus spécifiquement à la lecture et à l'écriture. Après réflexion, elles ont formulé deux souhaits précis. D'abord, conserver les ateliers de soirée avec les familles et ensuite développer et piloter des activités de lecture et d'écriture basées sur la littérature jeunesse pour les élèves de leur groupe. En fonction de ces deux intentions, les enseignantes ont aussi proposé un plan d'action qui comportait les deux objectifs suivants. D'abord, outiller les parents, parce que c'était leur demande, pour qu'ils puissent accompagner l'enfant qui fait son entrée dans l'écrit. On parle des stratégies de lecture, d'écriture, d'orthographe, de lexique, de compréhension de lecture. Et deuxième objectif, proposer des ateliers en classe qui intègrent la lecture et l'écriture. Afin de soutenir les trois enseignantes de première année dans l'atteinte de ces objectifs, on a sollicité deux spécialistes de la lecture, une qui détenait une expertise liée à l'exploitation de la littérature jeunesse en classe, et l'autre qui s'intéressait à l'enseignement des stratégies de compréhension en lecture d'albums. Grâce à la formation qu'elles ont reçue de la part de ces deux spécialistes, ainsi qu'aux connaissances qu'elles ont acquises sur l'enseignement de la lecture et sur la littérature jeunesse, les trois enseignantes de l'école primaire Saint-Vincent ont élaboré 7 activités littéraires. Ces ateliers se sont déroulés en classe à raison d'une fois par mois tout au long de l'année scolaire. En complément de ces 7 activités destinées aux élèves et réalisées en classe, l'équipe de recherche action a élaboré d'autres ateliers sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour les parents cette fois, pour les aider à mieux accompagner leur enfant à la maison dans la réalisation des devoirs et leçons. L'orthopédagogue de l'école ainsi qu'une bibliothèque scolaire ont aussi prêté main forte à l'équipe pour développer ce volet du projet. Au total, 4 soirées ont été organisées en fonction de 4 thèmes spécifiques qui répondaient aux besoins des parents. Donc, d'une durée moyenne de 1 heure, chacune des 3 premières soirées proposait 3 ateliers rotatifs de 20 minutes, soit un atelier de modélisation d'une période de leçon avec l'orthopédagogue, un atelier de trucs et de stratégies en lecture et en écriture offert par les enseignantes et un atelier parent-enfant pour mettre en pratique les informations reçues. Pour les parents qui n'avaient pas pu participer aux soirées, un résumé des ateliers leur était envoyé sous forme de papier. Lors de la quatrième et dernière soirée, les parents ont été invités à visiter différents kiosques où les élèves, cette fois-ci, présentaient l'ensemble des activités de lecture et d'écriture effectuées en classe au cours de l'année scolaire. Puis-je vous rappeler que ces élèves sont en première année? Mm-hmm. Je trouve ça formidable. Mm-hmm. Ce fut donc une occasion pour ces enfants de présenter leurs réalisations à leurs parents et de célébrer avec eux tous les apprentissages réalisés durant l'année scolaire grâce au projet intitulé « Il était une fois, une histoire qui se poursuit ». C'est un projet qui a sans doute permis de poursuivre une collaboration inspirante entre les différentes familles et leur école. Et je rappelle qu'on peut trouver ce texte sur le site Réseau d'information pour la réussite éducative, le RIRE, R-I-R-E.
Oh.
C'est une belle histoire.
Oui, vraiment très intéressant. Puis un lien, moi je vois un lien direct avec ton premier texte,
eh bien, oui, la lecture évidemment, interactive. Tout à fait. Mm-hmm. C'est un procédé utile. Alors, je vous pose la question. Pour ou contre le cellulaire et l'ordinateur en classe? C'est une bonne question.
C'est une bonne question, mais je me demande si on peut vraiment être contre.
Ah, on se le demande, effectivement. Alors, je vous présente ce texte de Martine Letarte, publié dans le magazine Forum. On salue Monique ici, parce que c'est souvent une de ses sources.
Oui.
On peut trouver ce magazine sur le site U2M Nouvelles. Et c'est un texte qui date du 8 mai, mais de 2017. Mais quand même, je trouvais que c'était un texte intéressant.
Mm-hmm.
Deux professeurs pro et des professeurs pro et anti-écran en classe ont partagé leurs expériences à la table ronde « La technologie dans les salles de classe, un atout ou une nuisance ?» Alors que le défi de gérer les cellulaires et les ordinateurs en classe est un incontournable, le débat est encore loin d'être terminé. Alors, ce débat s'est tenu à l'occasion d'un colloque sur le soutien à la réussite de l'Université de Montréal en 2017. Puis j'imagine qu'il doit y avoir une édition 2018 aussi. Embauché par l'université il y a quelques années, Grégoire Leclerc est arrivé dans sa première salle de classe en janvier 2010. Le professeur de la faculté de pharmacie s'est alors retrouvé devant une mare d'étudiants dissimulés derrière leurs ordinateurs portables. Conscient qu'il était bien loin d'être leur centre d'attention, il a voulu changer les choses. Il a donc déposé ses notes de cours en format web sur Studium. C'est Studium pour l'Université de Montréal.
Mm-hmm.
C'est l'environnement numérique d'enseignement et d'apprentissage de l'Université de Montréal. Ce n'était donc pas suffisant pour devenir plus intéressant que Facebook aux yeux de ses étudiants. Il a alors commencé à utiliser des télévoteurs. Alors, c'est des outils qui permettent de voter de façon électronique.
Okay.
Mais finalement, comme les étudiants possèdent tous des appareils mobiles, il a décidé de s'en servir. Par exemple, avec l'application Socrative, il a créé des questionnaires accessibles en ligne et dont les résultats sont diffusés en temps réel. Le professeur a plus d'un tour dans son sac pour susciter l'intérêt des étudiants. Alors, il pose une question floue ou bien il ne met pas la bonne réponse dans les choix. Ces stratégies causent une légère panique chez les étudiants et se mettent à réfléchir. Ils lui posent des questions, puis la classe se calme et il peut de nouveau capter l'attention avec la prochaine question. C'est un aspect légèrement chaotique de l'intégration de la technologie en classe qui est bien apprécié par Bruno, et là je m'excuse de la prononciation, Poelhuber. Paul Hubert, on va l'appeler comme ça,
oui,
qui est professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Et lui dit « Je trouve que c'est un heureux problème que de devoir gérer le surengagement des étudiants. » Passant de la parole aux actes, il a même provoqué un petit moment d'excitation dans l'auditorium au moment où, et là où soutenait la table ronde, lorsqu'il a demandé aux participants d'utiliser leur téléphone ou leur ordinateur pour donner leur avis sur l'utilisation des technologies en classe. Seulement 10% ont affirmé être contre. Bruno Paul-Hubert, qui a gagné 2 prix d'excellence en enseignement, se situe, lui, du côté de la majorité sur cette question. Il a recours à la technologie en classe pour amener les étudiants un cran plus loin. Par exemple, il leur demande d'apporter leurs ordinateurs portables en classe pour travailler sur un wiki. C'est un document qui est collaboratif et en ligne. Alors, par exemple, pendant qu'une personne rédige, les autres cherchent des textes complémentaires sur le web.
Ouais.
Lorsque l'ordinateur est mis au service de l'enseignement, il peut enrichir les apprentissages, déclare le professeur. Néanmoins, en Occident, l'humain passe de plus en plus de temps devant les écrans, pratiquement toujours connecté, en attente de nouveaux messages. Serait-il utopique de tenter de faire de l'université un lieu où l'on s'accorde une pause pour arriver à se plonger dans un processus de réflexion complexe? C'est le pari que fait Philippe Jeunequin, professeur au département d'histoire, celui-ci. Et lui, il dit « La présence de technologie en classe est un élément de distraction important, alors que les étudiants ont besoin de toute leur concentration pour développer leur capacité de réflexion complexe. » C'est ainsi qu'en 2013, il a commencé à demander à tous ses étudiants d'éteindre ordinateur et cellulaire en classe. Il dit « Je ne leur ai pas présenté cette directive comme une punition, mais je les ai sensibilisés à cet espace spécial qui est la salle de cours, où il doit y avoir des interactions entre eux et avec moi, alors qu'ils font partie d'un programme d'études qu'ils ont choisi », dit le professeur, par ailleurs responsable de l'élaboration du premier cours d'histoire en ligne de l'Université de Montréal, qu'il considère comme complémentaire aux cours en présentiel. Alors, c'est les cours en présentiel, c'est quand on est là, présent en classe.
Oui.
Alors, il dit « J'aide les étudiants à se débarrasser de la machine pour créer un environnement d'apprentissage en classe le plus agréable possible. » Si chacun a sa position sur l'utilisation des technologies en classe, tous s'entendent toutefois sur un élément, le besoin d'encadrement. Les lignes de conduite à l'Université de Montréal partent du principe de responsabilité partagée entre l'enseignant et les étudiants. Parce que si les technologies mobiles présentent des avantages, elles viennent aussi avec des problèmes, dont le risque de distraction. Les étudiants doivent en être conscients pour pouvoir adopter des usages responsables des technologies. Alors voilà un texte de Martine Letarte qu'on peut trouver sur le magazine Forum de l'Université de Montréal.
Mm-hmm.
Quelques brèves, Vivant?
Oui, mais avant, ce que je retiens de ton dernier texte, c'est que moi, j'aime bien l'approche un peu hybride où il y a des cours qui nous poussent à utiliser la technologie pour aller un peu plus loin et d'autres cours qui la mettent de côté pour qu'on fasse une réflexion. Je pense que c'est l'ensemble des deux qui font un tout intéressant.
Effectivement.
Alors, je reviens à la brève. C'est un article d'Evelyne Audette dans la presse d'hier qui souligne différents événements qui s'en viennent pour bouger, d'une part, et aider, d'autre part. Ça commence par un événement qui me tient... Que j'ai à cœur particulièrement, c'est le défi Cyclomyélone qui va avoir lieu le 26 mai. Alors, Marie, tu sais où est-ce que je suis le 26 mai.
Oui.
Depuis maintenant 6 ans, ce défi a pour but d'amasser des fonds pour la recherche sur le myélome multiple à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Dans les dernières années, les personnes atteintes de ce cancer ont vu leur espérance de vie passer de 3 ans à 6 ans.
Et c'est le double.
Oui, et dans ce domaine-là, le double, ça ouvre des perspectives importantes. Pour ce défi à vélo, deux parcours sont offerts, un de 40 km et un de 70 km, tous deux à partir de Venise en Québec. L'an dernier, où j'y étais, 89 cyclistes ont réussi à amasser 68 731 $.
Le 1 $.
Plus de 100 participants sont attendus cette année et l'objectif est passé à 75 000 $. L'événement se tiendra le 26 mai, donc c'est pas samedi qui s'en vient, c'est l'autre après. Et les inscriptions doivent être envoyées aujourd'hui, c'est-à-dire hier. Mais je pense bien que si vous êtes intéressé aujourd'hui, vous pouvez communiquer avec Myélome Canada, puis je pense bien que votre inscription va être tenue en compte. Si par contre, vous voulez pas faire le tour cycliste, tous les cyclistes demandent à être soutenus par des dons et il y a une facilité de le faire. C'est vraiment une petite organisation fantastique. Les deux personnes en charge de ce défi-là
sont extrêmement
sympathiques et ont survécu au myélome multiple. Et ils font, ils roulent. Mm-hmm. C'est vraiment un exemple fantastique.
Ouais.
Alors, c'est le premier événement dont je veux vous parler.
Intéressant. Alors, moi, je vous lis une toute petite brève. En fait, c'est tiré d'un dossier qui a été publié dans la presse, « Des idées pour améliorer mon école ». Alors, selon Lia Grégoire, qui a 11 ans, qui est en cinquième année du primaire à l'école d'Aignaud, elle voudrait utiliser la technologie. Je fais un lien ici.
Oui.
La technologie n'a pas vraiment évolué dans mon école, dit-elle. Les ordi sont de vrais dinosaures. Il serait temps de développer la technologie, par exemple, acheter de nouveaux portables ou de nouvelles tablettes. Aujourd'hui, il y a tellement de jeux éducatifs sur une tablette qu'on pourrait beaucoup apprendre. Mais attention, il faut quand même avoir un équilibre. Nous ne pourrions pas donner un écran à un enfant toute la journée, car ce serait beaucoup trop, dit-elle.
Ben oui.
C'est-tu joli, hein?
Ben oui.
Voilà.
Tout est dans tout.
Tout est dans tout.
Moi, je fais la suite avec un autre événement caritatif. C'est la Marche du Rhin qui va avoir lieu le 10 juin. Et parmi le groupe de cyclistes avec lequel je roule, il y a une personne qui a donné son rein à une de ses amies et qui fait évidemment la Marche du Rhin. Créée en 1964, la Fondation canadienne du Rhin a pour objectif d'alléger le fardeau que fait peser cette maladie sur les personnes atteintes et leurs familles, de financer la recherche sur les maladies rénales, d'offrir des programmes éducatifs et de faciliter l'accès à des soins de qualité. Elle cherche également à sensibiliser le public à l'importance du don d'organes. Ça, c'est un autre des sujets pour lesquels je roule. Plus de 110 millions ont été amassés depuis la création de la Fondation. Chaque année, la marche, un parcours de 5 km, a lieu dans une vingtaine de villes au Québec. Celle de Montréal aura lieu le 10 juin au Parc La Fontaine. Les inscriptions peuvent être envoyées jusqu'au jour de l'événement. Donc, je répète, c'est le 10 juin au Parc La Fontaine à Montréal. Il y en a dans d'autres lieux au Québec pour la Fondation canadienne du Rhin. C'est la Marche du Rhin.
Alors, merci beaucoup. Quelques mots d'enfant avant de quitter. La barbe à papa, selon Marina, qui a 6 ans, c'est de la glace à poils que j'adore. Batman, selon Antoine, 7 ans, c'est le seul garçon qui a le droit de mettre son slip par-dessus son pantalon. Et le bavardage, selon Charlotte, 6 ans, la maîtresse dit toujours que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Elle a raison parce qu'elle est dans ma bouche. Alors voilà, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Maurice Bolduc pour la mise en onde. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Bonne journée.
Bonne journée.
Et bonne semaine. Bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, mai 2018. C'est Marie Lalande qui vous parle. Avec moi en studio, l'équipe partielle du jeudi matin, Monique Kiroy qui est en vacances. On la salue. Bonjour Yvan.
Bonjour.
Bonjour Yvan Deslauriers avec sa voix, c'est mon baryton préféré, mais avec une voix de basse profonde de laryngite ce matin.
Oui, c'est ma première sortie publique.
De la semaine, c'est ça.
Depuis lundi.
On l'a sorti du lit. Et bonjour Maurice Bolduc en régie.
Bonjour.
Bonjour. Alors Yvan, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui?
Je vous présente deux choses. Je vais essayer de vous présenter deux choses. La première, c'est... probablement que Monique l'aurait présenté, celle-là. C'est un résultat qui a été présenté à l'ACFAS. L'ACFAS, ça a eu lieu la semaine dernière. C'est le rassemblement de recherche fait par des francophones au Québec. Et celle-là touche particulièrement le monde du sport, mais pas nécessairement juste le monde du sport.
Okay.
Je te vise là-dedans.
Intéressant.
Et ma deuxième intervention va être en deux fois et ça va raconter, ça va être bientôt le grand défi Pierre Lavoie, mm-hmm. et il y a quelqu'un qui va nous raconter comment ça se passe, mais de l'intérieur.
Oh, intéressant. Alors moi, de mon côté, je vais vous parler de lecture interactive au service de la théorie de l'esprit. Alors j'entends ici vos questions. J'ai très hâte d'y répondre. Ça, c'est un premier texte. Ensuite, je vais vous parler d'un projet de collaboration école-famille qui s'est tenu dans la région de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Et finalement, moi aussi, j'ai pensé à Monique, donc un texte qui nous parle de l'utilisation des cellulaires et des ordinateurs en classe, mais à l'université, cette fois-ci.
Okay.
Alors voilà.
Alors Monique est un peu avec nous, finalement.
Monique est un peu avec nous. Voilà, on commence. Alors, Yvan, des réminiscences du congrès, du dernier congrès de l'ACFAS.
Oui, et c'est le sujet qui a été présenté, c'est pourquoi les athlètes, puis là, je vais parler de l'athlète sportif,
oui.
mais on peut traduire par athlète dans tout genre.
OK.
Choke sous la pression.
Choke étant un verbe.
Oui.
Choquer. L'action
vraiment de... s'étrangler.
OK.
Sous la pression. Puis je vais vous raconter un peu qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Et puis, tu vas voir, Marie, même la dernière phrase t'es destinée. C'est un phénomène qui peut être appliqué dans d'autres
dans
domaines.
Dans plusieurs domaines.
Ça a été présenté sous la plume de Philippe Mercure dans la presse du 12 mai. Alors, jeudi soir dernier, mm-hmm. il y a une semaine, les Predators de Nashville, l'équipe de P.K. Subban, mm-hmm. affrontent les Jets de Winnipeg dans un 7e match des séries éliminatoires. La pression est à son comble. Le gardien des Predators, pourtant l'un des meilleurs de la Ligue, accorde 2 mauvais buts et coule les siens devant ses propres partisans.
Oh, j'ai de la peine pour lui.
Ben, tous ceux qui ont gagé pour cette équipe-là oui. ont eu la peine à ça. Que s'est-il passé? En bon québécois, on dit que Pécariné, qui est le gardien de but des Predators, a choqué. Et c'est ce phénomène, appelé plus correctement effondrement de performance, qui fascine Marc-Antoine Roussel, étudiant à la maîtrise en médecine expérimentale, volet kinésiologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Scott Gomez ne compte pas de but, il est mauvais et n'arrête pas de choquer.
On a entendu ça souvent.
Oui. Pacioretty est en léthargie. Eugénie Bouchard ne gagne plus, elle choque, c'est clair. L'effondrement de performance et la léthargie sont souvent mélangés et utilisés n'importe comment, en particulier dans le sport, et ça me chicote un peu, nous lance M. Roussel. L'étudiant tient à rappeler une chose à tous les commentateurs sportifs, professionnels et de salon. Je me suis senti visé là-dedans. Il est normal que les performances d'un athlète fluctuent dans le temps. Avant de crier au chokage, un certain nombre de critères doivent être respectés. 1. L'athlète doit rater de façon flagrante des gestes qu'il maîtrise normalement. Deuxièmement, l'effondrement doit survenir dans un contexte où l'athlète cherche le succès. Troisièmement, la contre-performance doit générer de l'anxiété. Et quatrièmement, elle doit se produire sous pression. Puis là, Marie est en train de chercher pourquoi je fais référence à des examens pour le fun. Un athlète ne peut pas s'effondrer dans une pratique parce qu'il n'y a pas de quête de succès et qu'il n'y a pas de pression. Pour moi, c'est-à-dire pour M. Roussel, c'est impossible de m'effondrer au golf, parce que je suis déjà mauvais au golf.
Okay.
J'aurais pu dire la même chose. Par contre, je joue au tennis depuis 20 ans et je pourrais donc m'effondrer au tennis. Pécariné, jeudi soir passé, il a choqué. Tranche l'étudiant. Même moi, j'aurais arrêté ces lancers-là. Il a connu une baisse de performance flagrante par rapport à des standards habituels dans un contexte de 7e match en séries éliminatoires devant ses partisans. Ça correspond à la définition, nous dit Marc-Antoine Roussel. Mais que diable se passe-t-il quand un athlète de haut niveau se révèle incapable d'accomplir des gestes pour lesquels il s'est entraîné pendant des années? Marc-Antoine Roussel explique qu'il est possible que l'athlète soit distrait par des éléments extérieurs, la foule, l'importance du match, le gain financier en jeu. La mémoire de travail est alors divisée en deux. Elle doit gérer la tâche à accomplir et ce qui se passe à l'extérieur. L'athlète peut aussi être tourné vers lui-même et avoir une conscience personnelle trop élevée des tâches à accomplir. L'athlète pense à trop de choses. Il décortique ses mouvements. L'habilité qui était devenue autonome grâce à l'entraînement devient manuelle, nous explique l'étudiant. Cette histoire-là est véridique et vraiment frappante pour ceux qui l'ont vue à la télévision. C'est en voyant le golfeur français Jean Van de Velde s'effondrer complètement au dernier trou du British Open en 1999 que Marc-Antoine Roussel s'est passionné pour le sujet. Alors, le British Open, c'est un très grand tournoi de golf. Ça dure 4 jours. Jean Van de Velde est premier au dernier trou du 4e jour.
Okay, la pression est forte, là.
Mais il n'y a pas de pression en principe parce qu'il est premier avec plusieurs coups d'avance. Oh. Dans une séquence rocambolesque, le golfeur qui menait alors par une avance de plusieurs coups rate un premier coup, envoie une deuxième balle dans la foule, une troisième dans un ruisseau et une quatrième dans une fosse de sable pour finalement perdre sa première place. Je regardais ça et je me disais, comment un athlète peut-il survoler un tournoi, puis arriver au dernier trou et choquer comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Raconte l'étudiant. Le terme « léthargie » en est un autre dont les commentateurs sportifs sont friands. Et selon Marc-Antoine Roussel, lui aussi est souvent mal utilisé. Une léthargie survient quand une équipe ou un athlète reconnaît une période de mauvaise performance ou de défaite, typiquement de 2 semaines à 1 an. Le Canadien de Montréal, cette année, était en léthargie.
Oui.
Son gardien, Carey Price, aussi, puisqu'il a sous-performé par rapport à ses standards pendant une longue période. Eugénie Bouchard est un autre exemple frappant. Les causes de la léthargie sont multifactorielles et plus difficiles à identifier que celles de l'effondrement de performance. Pour son mémoire de maîtrise, c'est une étude de maîtrise. Hein,
oui, c'est intéressant. Oui.
Marc-Antoine Roussel a demandé à une dizaine de golfeurs appartenant à des équipes universitaires de lui décrire un effondrement de performance et une léthargie. Choquer ou avoir une léthargie. L'échantillon est petit, mais suggère que ces phénomènes sont très mal compris par les athlètes. Or, il est difficile pour les entraîneurs et les athlètes de surmonter des concepts qu'ils ne comprennent pas.
Évidemment.
On est très bon pour amener des athlètes à un haut niveau, mais beaucoup moins pour les aider lorsque les choses vont mal, estime M. Roussel. Et c'est là que je te vise, Marie. Je crois qu'être en mesure de mieux comprendre, prédire et prévenir les effondrements de performance pourrait aider non seulement les athlètes, mais aussi les pilotes d'avion, les chirurgiens ou les étudiants qui passent des examens. Alors, c'était un résultat du congrès de l'ACFAS. Pourquoi les athlètes choquent sous la pression, sous la plume, de Philippe Mercure dans la presse du 12 mai.
Merci. Alors, je réponds à vos questions.
Pardon?
Je réponds à vos questions aussi.
Je ne l'ai même pas posé.
Ah non, mais tantôt, tu en avais dans les yeux.
Ah bon?
La lecture interactive pour favoriser le développement de la théorie de l'esprit. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un texte de Marie-Pierre Baron, publié sur le site parlonsapprentissage.com le 14 février 2018. Dans un texte précédent, l'auteur, Mme Baron, qui est doctorante à l'Université de Chicoutimi, l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, dans un texte précédent, l'auteur a déjà expliqué ce qu'est la théorie de l'esprit et comment elle se développe. Alors, je vous rappelle ce que c'est. Il s'agit de la capacité à identifier ses états internes. Donc, quand par état interne, on parle d'émotions, de sentiments, je vais préciser ça tout à l'heure,
okay.
et ceux des autres, et à attribuer des états aux autres indépendamment des nôtres. Pour un enfant, la difficulté à identifier des sensations physiques, des perceptions, en plus des états internes émotionnels et intentionnels, et des autres, a des répercussions en classe. En effet, un enfant qui ne reconnaît pas bien les états internes peut avoir de la difficulté avec la compréhension et la production de ce qu'il va écrire pour raconter quelque chose. On appelle ça le discours narratif en pédagogie.
Okay.
En ce sens, nous proposons ici d'utiliser la lecture interactive, on va revenir sur ce que c'est tantôt, comme un outil d'intervention pour aider les enfants à avoir accès aux états internes des personnages et d'en discuter, en plus de favoriser l'enseignement sur le discours narratif ou l'habileté à raconter. L'enfant qui développe son discours narratif construit les habiletés nécessaires pour rappeler un fait ou une anecdote et pour raconter une histoire, qu'elle soit réelle ou fictive. Pour bien raconter, il doit être capable de dégager les composantes du récit et de les structurer. Dans un récit, on retrouve habituellement 6 composantes qui sont liées de cause à effet l'une avec l'autre. La première, c'est la situation initiale, c'est le point de départ de l'histoire. La deuxième, c'est le problème. Il y a une problématique, il y a un événement perturbateur, un problème qui vient briser l'équilibre émotionnel, ce qui génère généralement une émotion négative. La troisième composante, c'est le but. Alors, le protagoniste ou le personnage dans l'histoire se fixe un objectif pour régler le problème, rétablir l'équilibre de départ. Quatrièmement, il y a des tentatives d'action. Pour atteindre son but, le personnage pose différents gestes. Il accomplit différentes actions qui fonctionnent ou pas. Cinquièmement, une solution. Celle-ci engendre le retour à l'équilibre émotionnel et généralement une émotion positive. Et sixièmement, c'est la dernière composante, une situation finale, et donc c'est le retour à la normale. Bing, notre histoire est bouclée.
Mm-hmm.
Le développement du discours narratif est semblable à celui du langage oral, en général parce que l'enfant le développe au contact des autres, notamment des adultes. La lecture interactive est une intervention par laquelle l'adulte, en plus de faire la lecture à l'enfant, le questionne sur la structure du récit. Sur l'histoire. L'adulte pose des questions qui aident à faire des liens, centrés sur les composantes du récit, ce qui amène l'enfant à les lier entre elles. L'adulte joue ainsi un rôle de médiateur pour aider l'enfant à comprendre et à pousser plus loin sa compréhension du discours narratif. Au cours de la lecture interactive, différents types de questions peuvent être posées par l'adulte. Il y a les questions fermées, celles auxquelles on répond par oui ou par non. Elles servent à attirer ou à maintenir l'attention de l'enfant. Elles sont le plus souvent rétrospectives, c'est-à-dire qu'elles demandent de revenir sur ce qui vient tout juste d'être lu. Les questions ouvertes, pour leur part, permettent non seulement de cibler les composantes du récit, mais favorisent également l'expression des relations de cause à effet. Les questions ouvertes de type rétrospectif, donc sur ce qui s'est passé avant, amènent l'enfant à revenir sur une composante nommée précédemment, tandis que celles du type prospectif exigent de l'enfant qu'il fasse des prédictions ou des hypothèses sur la suite du récit en lien avec ce qui s'est passé avant. Toutes les questions ouvertes sont donc profitables pour avoir accès à la compréhension que l'enfant a du récit. En plus de favoriser le développement du discours narratif, le questionnement au cours de la lecture interactive constitue un excellent moyen d'attribuer des états internes aux personnages, notamment lorsqu'il s'agit de questions ouvertes en lien avec les composantes du récit. En effet, les discussions ainsi orientées amènent l'enfant à assigner davantage d'états internes aux personnages. De plus, l'identification des états internes aide l'enfant à produire des inférences, donc ça veut dire lire entre les lignes, et vice-versa. Par exemple, quand l'adulte demande comment le personnage se sent et pourquoi il se sent comme ça au début du récit, il espère en fait que l'enfant identifie l'état interne de type émotionnel du personnage, donc l'émotion négative, qui le lie de cause à effet à la problématique. Il en est de même lorsque l'adulte interroge l'enfant sur le but, donc sur ce que veut le personnage. Il lui demande de cette façon d'identifier un état interne de type intentionnel. Aussi, en énonçant le but, l'enfant, en lien avec la théorie de l'esprit, établit un lien de cause à effet avec la problématique vécue par le personnage. Donc, ce qu'il faut retenir, l'enfant identifie plus facilement les états internes chez des personnages fictifs en cours de lecture que chez ses pairs. Il s'agit donc d'une opportunité d'intervenir de façon précoce auprès des enfants afin qu'ils développent leur théorie de l'esprit, soit la capacité d'identifier les émotions, les sentiments qui nous habitent et ceux que vivent les autres. C'est formidable. Mm-hmm. Lisons aux enfants.
Est-ce que c'est ça que tu fais le dimanche quand tu fais Marie raconte?
Eh bien, mais il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas d'interaction parce que les enfants ne répondent pas, mais moi, je les pose les questions.
Oui, pour oui,
que...
c'est ça.
Puis c'est ce que je fais dans les classes okay. aussi quand je m'assois avec des élèves.
Mm-hmm.
C'est formidable la lecture interactive mm-hmm. pour établir une conversation avec les enfants.
Mm-hmm.
Voilà.
Merci.
Merci.
L'alpha ou l'oméga, inégal chaque fois. Quand on se voit, c'est déjà ça, tu restes mon dada. Les nuits ne se suivent pas, de l'éclipse au nirvana. Parfois c'est trop, c'est ce que tu veux, l'extravaganza. Si l'amour est fugace, il ne se refuse pas. Je te garde une place entre les draps pour nos ébats. Et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Oh, j'ai les bleus, sauf les jours où tu reviens. Pour me saouler à tes mots et jouer entre tes mains. Tous les jours sont des blouses quand c'est en vain. Reviens, chaque jour reviens. À chaque jour.
On vient d'entendre Alexandre Desilets, la pièce Extravaganza.
Merci Maurice. Alors Yvan, donc on s'en va au tournoi, au grand défi Pierre Lavoie?
Oui, il y a quelques années, j'ai vraiment voulu participer au grand défi Pierre Lavoie.
Oui, c'est un rêve.
Ben, pour un cycliste amateur, c'est comme un petit peu la petite coupe Stanley du cycliste. Et je n'ai pas réussi parce que toutes sortes de bonnes raisons. Mais Geneviève Lefebvre, qui est un petit peu une idole pour moi, je vous la lis souvent. Elle a une très belle plume. Elle y a participé et je vous raconte. Ça s'appelle « Roulons, roue contre roue » dans le magazine Espace de mai 2018. Quand notre collaboratrice s'attaque aux 1000 kilomètres du grand défi Pierre Lavoie, il n'y a ni longueur ni langueur. Récit haletant de ce célèbre événement caritatif, vu de l'intérieur, et je vais le faire en deux parties. Mm-hmm. Un jour, fin mai 2016, je reçois un courriel de Martin Balthazar, vice-président de l'édition du groupe Ville-Marie Littérature. J'ai rencontré Martin une fois, deux secondes, au Salon du Livre de Montréal. On s'est serré la main en vitesse, assez pour que je retienne un regard allumé de farfadet hyperactif, et puis je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Jusqu'à ce message. « Il manque quelqu'un dans notre équipe pour faire le grand défi Pierre Lavoie. C'est dans 3 semaines. Veux-tu être des nôtres? » Oui. Je n'ai pas réfléchi, surtout pas. Trop de réflexion, tue l'action, tout le monde sait ça. 1000 kilomètres, de l'Abbé à Montréal, de jour et de nuit, jusqu'au stade olympique. À tenter de suivre un quinquagénaire au regard bleu métal et aux mollets d'airain qui carbure à Where the Street Have No Name, l'hymne jusqu'au boutiste de U2, qui a battu le record du monde de sa catégorie en Ironman de Kona à Hawaï, qui traverse le lac Saint-Jean à la nage et qui a perdu 2 enfants victimes de l'acidose lactique. 2 enfants. Un gars qui dérange aussi. Ça, c'est dans l'ordre des choses. Tous les nageurs le savent. On n'avance pas sans créer des remous. Donc, oui, j'ai pédalé 3 fois depuis la fonte des neiges. Autrement dit, rien. Mais je sors tout juste d'un entraînement de 5 mois pour le marathon que je viens de courir. Je sais donc que je devrais m'en tirer pas pire du côté de l'endurance. Mes coéquipiers, je ne les ai jamais rencontrés. Sauf celui qui a été assez fou pour recruter une fille dont il ne sait rien. Je vais partager cette aventure avec de parfaits inconnus, 4 gars. Hugo Delannay, notre capitaine, Jean Péladeau, Alexandre Tardif et Martin Balthazar. Je suis la seule fille. Trop tard, j'ai dit oui. On va aussi partager un VR, un véhicule récréatif, qui nous servira de camp de base mobile au fil des jours et des nuits. Un petit espace dans lequel on sera les uns sur les autres à manger, à se changer les uns devant les autres, à essayer de se voler 1 heure de sommeil, recroquevillé sur une banquette. Une seule toilette. À la pensée de partager tant d'intimité avec 4 gars dont je ne sais rien, je l'avoue, j'ai failli renvoyer un autre courriel où j'inventerais une grand-mère à l'agonie. Ah! Trop tard, fille! T'as dit oui! Je rencontre mes compagnons de route pour la première fois le jour du grand départ dans le stationnement du Journal de Montréal par une caniculaire fin de journée. Pressé par le temps, j'arrive d'une réunion de travail en petite robe noire, talons hauts, mon sac d'équipement sur le dos et mon fidèle Kuota XX Small à mes côtés. Le Kuota XX Small, c'est le vélo, ça.
Ah bon?
C'est la marque du vélo.
OK.
Comment dire? Si j'avais été eux, j'aurais peut-être été sceptique devant le spectacle de la fille qui débarque en robe cocktail pour un défi de 1000 km en vélo. S'ils ont douté de moi, le grand Jean fou de vélo, Hugo le pince sans rire, Alex le footballeur gentleman et Martin le farfadet bionique, ils ont eu l'élégance de ne pas le laisser paraître. En route vers la baie, c'est autour d'un sac jumbo de Cheetos jaune-orange qu'on fait connaissance comme il se doit. Hugo, notre capitaine, répartit les étapes. Il faut toutes les rouler, sans exception, et certaines exigent notre participation à tous. En bref, on ne va pas se pogner le bain. Alex nous sert de chauffeur, ce qui évite aux rouleurs d'avoir à prendre le volant après une étape, mais ce qui nous prive aussi d'une paire de jambes fraîches. En équipe réduite, on va devoir se taper plus de kilomètres chacun. Les mains jaune-orange jusqu'au coude, les gars m'offrent d'alléger ma tâche. Oh non! On ne peut pas toujours dire oui. Merci les gars, mais j'ai dit oui, je vais rouler ma part. Ils ont le bon goût de ne pas insister. Le grand soir arrive enfin. On est 1000 devant les estrades du quai de l'Escale à Saguenay, fébrile comme 10 000. On a inspecté nos pneus, vérifié nos trousses, bu de l'eau, trop, maudit, attaché nos casques et à califourchon sur nos bikes, tout ce qu'on veut, c'est se mettre à pédaler. Quand Pierre Lavoie s'adresse à la foule, ils ont gardé le plus électrisant pour la fin, les maudits. On est primés comme des purs sang devant la gate de départ de Blue Bonnets. Pour la première fois, le Saguenay à nos pieds devant la brunante d'un soir d'été juste parfait, on se met en branle à travers la ville Where the Streets Have No Name, porté par les gens qui nous tendent la main pour des hi-fi énergiques et pleins d'enthousiasme. On n'a fait aucun effort physique encore et j'ai le cœur qui palpite si fort que j'ai peur que mon maillot se déchire. La suite?
La suite après la pause, et on va parler en plus de collaboration école-famille et de cellulaire en salle de cours à l'université. Alors, on se retrouve après la pause.